Faust, tu gaspilles les dernières heures de ta vie. Ta science est tout juste bonne à mesurer ton ignorance. Tout ce que tu as appris, c'est que sans moi, tu ne sauras rien. Et par moi, tu pourrais tout savoir, mais tu as peur.
Ça peut pas faire de mal.
Tu as peur, Faust ?
Je n'ai pas peur de toi. Je n'ai pas peur des formes ridicules que tu aimes apprendre. Je n'ai pas peur de tes grandes cornes, de tes poils rudes. C'est un pauvre diable. Crois-tu donc que tu m'effraies ? Je suis Faust, ton égal, et je puis devenir ton maître.
L'heure est donc venue ?
L'heure est venue, et je t'ordonne de te montrer.
Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Ça peut pas faire de mal.
Seigneur, tu veux savoir comment les choses vont chez nous ? Pardonne si je ne sais m'exprimer solennellement. Ma bouche te fera rire, assurément, si depuis longtemps tu n'avais pas perdu l'habitude de rire. Je ne sais rien dire du soleil et des mondes, mais je vois seulement à quel point les hommes se tourmentent. Le petit dieu du monde reste fait de la même trempe et demeure aussi bizarre qu'au premier jour. Il vivrait sans doute un peu mieux si tu ne lui avais donné un reflet de la lumière céleste. Il appelle cela la raison, et ne l'emploie qu'à se gouverner plus bêtement que n'importe quelle autre bête. Il ressemble, si votre seigneurie le permet, à une de ces cigales aux longues jambes qui s'en va sautant et voletant sans cesse, et puis chante sa vieille antienne dans l'herbe. Et s'il restait toujours dans l'herbe ? Mais non ! Il faut qu'il aille fourrer son nez dans l'ordure.
N'as-tu rien de plus à me dire ? Ne viens-tu jamais que pour accuser ? Et n'y a-t-il, selon toi, jamais rien de bon sur terre ?
Non, Seigneur. Tout y va parfaitement mal, comme toujours. Les hommes me font pitié avec leur vie lamentable, au point que je n'ai même plus envie de tourmenter ces pauvres gens.
Connais-tu Faust ?
Le docteur ?
Lui-même, mon serviteur.
En vérité, celui-là vous sert d'étranges manières. Ce fou ne mange ni ne boit rien de terrestre. La fermentation de son esprit le pousse sans cesse au loin et lui-même se rend compte à moitié de sa folie.
Pour le moment, il ne me sert que confusément, mais je vais bientôt le conduire à la clarté.
Que pariez-vous ? Celui-là, vous le perdrez encore si vous m'autorisez à le conduire doucement dans mes voies.
L'activité de l'homme peut trop aisément se relâcher. Il aime céder au repos sans limite. C'est pourquoi je lui donne volontiers le compagnon qui stimule, opère et doit agir en diable. Eh bien, fais-en ton affaire.
Là, je vous en remercie. L'affaire ne sera pas longue. Je n'ai aucune crainte pour mon pari. Si je parviens à mes fins, vous me permettrez un triomphe à pleine gorge. Il faut qu'il morde la poussière et avec délice, comme mon cousin, le serpent.
C'est sur cet étrange pari entre Dieu et le diable que s'ouvre Faust, l'une des pièces les plus célèbres du grand écrivain allemand Johann Wolfgang von Goethe. L'œuvre emprunte son titre au nom d'un alchimiste du XVIe siècle, héros d'un conte populaire. Goethe a consacré une longue partie de sa vie à la réécriture de ce mythe aux accents fantastiques qui met en scène l'une des plus grandes tentations de l'homme, passer un pacte avec le diable qui lui offrirait, en échange de son âme, l'amour éternel et la connaissance des secrets du monde. Ce soir, découvrons l'histoire de ce docteur Faust, un savant respectable qui voit sa vie bouleversée par la passion. Tout se joue autour d'une rencontre inquiétante, celle de Faust, l'homme de raison, avec une créature irrationnelle, le diable, qui apparaît sous le nom de Méphistophélès. Ces deux personnages symbolisent la lutte entre le bien et le mal, mais aussi l'opposition entre la pensée et l'action. Car au-delà d'une réflexion philosophique sur la place de l'homme dans la création, l'œuvre peut aussi se lire comme un roman d'aventure plein de péripéties qui précipitent le savant dans l'action et le conduiront du ciel en enfer. Et pour m'accompagner dans ces pérégrinations diaboliques, j'ai le plaisir d'accueillir à mes côtés deux jeunes comédiens pensionnaires de la Comédie Française, Adeline Dermy et Stéphane Varupen. Bonsoir à tous deux.
Bonsoir.
Pour commencer, quittons le ciel où s'est tenu le prologue de la pièce et revenons sur terre pour y découvrir le portrait de Faust. Voici celui que Dieu considère comme son fidèle serviteur. Le docteur Faust est un homme de savoir, tenté par les sciences occultes. Désespéré par la vanité des connaissances humaines, celui-ci se détourne des enseignements officiels et s'adonne à la magie noire. Dans une pièce gothique, étroite, à voûte élevée, Faust agité dans son fauteuil devant un pupitre. Hélas, la philosophie, la jurisprudence et la médecine, et aussi, par malheur, la théologie, je les ai étudiés à fond, avec un zèle ardent. Et maintenant me voilà, pauvre fou. On me donne du maître et même du docteur, et voilà 10 ans déjà que je mène des élèves par le nez, et je vois bien que nous ne pouvons rien savoir. J'en ai le cœur presque consumé, mais je ne crains ni l'enfer ni le diable. J'ai de ce fait perdu toute joie. Je n'ai non plus ni bien, ni argent, ni bonheur, ni gloire dans le monde. Quel chien voudrait continuer à vivre à ce prix? Aussi me suis-je tourné vers la magie pour voir si la puissance et la voix de l'esprit n'allaient pas me révéler maints secrets. Ô pleine clarté de la lune, si tu jetais pour la dernière fois un regard sur ma peine, toi que j'ai si souvent, à minuit, par mes veilles, fait venir à ce pupitre, ah, si seulement je pouvais flotter sur les prairies à ta pâle lumière, délivré de toutes les misères du savoir. Il se lève, ouvre un vieux grimoire et y lit la formule magique pour invoquer l'esprit de la terre. Il est soudain en proie à une vision. Ah! Quelle extase à cette vue s'empare d'un coup de tout mon être. Je sens en moi un bonheur de vivre nouveau et sacré. Je sens une ardeur nouvelle circuler dans mes nerfs et mes veines. Est-ce un Dieu qui a tracé ces signes, qui apaise toute mon agitation intérieure, qui emplisse mon pauvre cœur de joie et qui, dans un élan mystérieux, me dévoile les forces de la nature? Quel spectacle! Mais, hélas, ce n'est qu'un spectacle. Où puis-je te saisir, nature infinie? Où vous trouvez, mamelle? Vous, source de toute vie auquel se pendent le ciel et la terre, c'est vers vous que se tourne ma poitrine flétrie. Vous jaillissez, vous abreuvez, et moi, je languis vainement après vous. Une flamme rougeâtre se met à scintiller. L'esprit de la terre apparaît.
Qui m'appelle?
Effroyable vision!
Tu m'as évoqué par des moyens puissants et maintenant tu implorais de pouvoir me contempler, haletant, d'entendre ma voix, de voir mon visage. Je cède à la puissante imploration de ton âme, me voici. Quel misérable effroi te saisit, surhomme! Qu'as-tu fait de l'appel de ton âme? Où es-tu, Faust, toi dont j'entendais la voix et qui te tendais vers moi de toutes tes forces? Est-ce toi qui, dès que mon souffle t'entoure, tremble de toutes les profondeurs de ton corps, lâche ver qui se tord pour s'enfuir?
Las, je ne peux soutenir ta vue. À moi! Quelque temps plus tard, voici comment le diable lui-même se manifeste au savant. Faust et Wagner décident de sortir et font une promenade dans les bois avoisinant la ville. C'est là qu'ils font la rencontre d'un chien, d'humeur joueuse et attachant. À la tombée de la nuit, Faust décide de le recueillir chez lui, mais le comportement de l'animal devient de plus en plus étrange. Faust, entrant avec le Barbet dans son cabinet d'études. « Sois tranquille, Barbet, ne cours pas en tous sens. Que flaires-tu sur le seuil? Va te coucher derrière le poêle, je te donne mon meilleur coussin. Ne grogne point, ça suffit. » S'il faut que je partage la pièce avec toi, Barbet, cesse tes cris. Un compagnon aussi bruyant, je ne peux le souffrir auprès de moi. Il faut que l'un de nous deux quitte la pièce. La porte est ouverte, tu as le champ libre. Mais que vois-je? Cela est-il naturel? Est-ce une ombre? Est-ce la réalité? Comme mon Barbet enfle et vient à se gonfler. Il se lève puissamment, ce n'est pas une forme de chien. Quel spectre ai-je introduit chez moi avec ses yeux de feu et son effroyable mâchoire? Oh, déjà il se gonfle, ses crins sont hérissés. Relégué derrière le poêle, il s'enfle comme un éléphant. Il remplit déjà tout l'espace et va se dissoudre en vapeur. Méphistophélès sort de derrière le poêle en habit d'étudiant.
À quoi bon ce vacarme? Qu'y a-t-il pour le service de monsieur?
C'était donc là le secret du chien. Un écolier? Il y a de quoi rire.
Je salue le savant docteur. Vous m'avez fait bigorrement transpirer.
Quel est ton nom?
La demande me paraît bien frivole.
Eh bien, qui donc es-tu?
Une partie de cette force qui veut toujours le mal et toujours fait le bien.
Que signifie cette énigme?
Je suis l'esprit qui toujours nie. Et c'est avec justice, car tout ce qui naît est digne de périr. Il serait donc mieux que rien ne naquît. Ainsi, tout ce que vous nommez péché, destruction, bref, ce qu'on entend par mal, voilà mon élément propre. Si l'homme, ce petit monde de folie, se regarde ordinairement comme formant un entier, je suis, moi, une partie de la partie qui, au commencement, était tout. Une partie des ténèbres qui donnèrent naissance à la lumière.
Maintenant, je connais tes honorables fonctions. Tu ne peux anéantir la masse et tu te rattrapes sur les détails. Entreprends donc autre chose, étonnant fils du chaos.
Nous allons y réfléchir sérieusement lors de la prochaine entrevue. Puis-je cette fois m'éloigner?
J'ai maintenant appris à te connaître. Rends-moi désormais visite à ta guise. Voici la fenêtre, voici la porte, et tu peux même passer par la cheminée.
Oh, quel beau feu! Oh, j'aime bien le feu. Lui aussi m'aime bien. Tenez, voyez comme les flammes sont prégnantes pour moi. Elle me lèche les doigts comme le ferait un jeune chien. C'est agréable.
Ça peut pas faire de mal.
Je suis le diard.
Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Voici à présent la scène capitale où Faust pactise avec le diable. Après sa rencontre avec Méphistophélès, le docteur Faust essaie de reprendre le cours normal de sa vie. C'est alors qu'une nouvelle apparition du diable va décider de son destin. On frappe. Entrez. Qui vient m'importuner encore?
C'est moi.
Entrez.
Tu dois le dire 3 fois.
Entrez donc.
Tu me plais ainsi. Nous allons faire affaire, je l'espère. Pour dissiper tes idées noires, me voici en gentilhomme, avec l'habit écarlate bordé d'or, et je te donnerai le conseil de t'habiller de même. Ainsi, tu pourras, affranchi de tes chaînes, goûter ce que c'est que la vie.
Sous quelque habit que ce soit, je n'en sentirai pas moins la misère d'une existence étriquée. Je suis trop vieux pour me contenter de jouer, trop jeune pour être sans désir. Qu'est-ce que le monde peut m'offrir de bon? Je dois renoncer.
Cesse donc de jouer avec ta tristesse qui, comme un vautour, dévore ta vie. Cependant, il ne s'agit pas de s'encanailler. Mais si tu veux, uni à moi, diriger tes pas dans la vie, je m'accommoderai volontiers de t'appartenir sur le champ. Je me fais ton compagnon et, si cela t'arrange mieux, ton valet et ton serviteur.
Et quelle obligation devrais-je remplir en retour?
Tu as encore bien le temps de t'occuper de cela.
Non. Non. Le diable est un égoïste et ne fait point pour l'amour de Dieu ce qui est utile à autrui. Exprime clairement ta condition.
Je veux, ici, m'attacher à ton service, t'obéir sans fin ni cesse, mais quand nous nous reverrons là-bas, tu devras me rendre l'appareil.
Ce là-bas ne m'inquiète guère. Advienne ensuite ce qui pourra. Je ne veux point t'en apprendre davantage.
Alors engage-toi. Tu verras ces jours-ci toutes les joies que mon art peut procurer. Je te donnerai ce qu'aucun homme n'a pu même encore entrevoir. Top là.
D'accord. Tu peux me mettre des fers. Je consens à m'anéantir.
Un mot encore. Pour parer à toute éventualité, je demande pour moi quelques lignes. Il suffira du premier papier venu. Tu te serviras pour signer d'une petite goutte de sang.
Si cela fait ton bonheur, je signe. Voilà. Par quoi commençons-nous?
Nous partons tout de suite.
Voici une autre rencontre capitale qui va bouleverser l'existence de Faust. Suivons notre savant fou dans les rues de la ville en compagnie de Méphistophélès. Passant devant l'église, il fait alors une rencontre inespérée, celle de Marguerite, une belle jeune femme, vertueuse, qu'il ose aborder. Mais pour parvenir à ses fins, il implore l'aide de son serviteur. Ma belle demoiselle, oserais-je hasarder de vous offrir mon bras et ma conduite?
Je ne suis ni demoiselle, ni belle, et je puis aller à la maison de la conduite de personne.
Elle se dégage et s'enfuit. Par le ciel, que cette enfant est belle! Je n'ai encore rien vu de semblable. Elle est si honnête et si vertueuse. Et elle a pourtant en même temps quelque chose de si piquant. La rougeur de ses lèvres, l'éclat de ses joues, de ma vie, je ne les oublierai. La manière dont elle a baissé les yeux, cela était à ravir. Toi, approche. Il me faut avoir la fille.
Et laquelle?
Celle qui passait ici à l'instant.
Celle-là? Elle sortait de chez son confesseur qui l'a absoute de tous ses péchés. Songez aux obstacles, aux imprévus. Il me faudrait 14 jours au moins pour dénicher l'occasion. Mais pour vous montrer que je veux sincèrement vous servir et adoucir vos tourments, ne perdons pas un moment. Dès aujourd'hui, je vous conduis dans sa chambre.
Découvrons à présent Faust métamorphosé par l'amour. Tenant sa promesse, Méphistophélès parvient à organiser une rencontre entre son maître et la belle inconnue qui se prénomme Marguerite. Afin d'obtenir son assentiment, le diable a usé de son arme la plus redoutable, la tentation, en couvrant la belle innocente de somptueux cadeaux. Le rendez-vous galant se déroule chez Marthe, une voisine entremetteuse. La jeune fille ne parvient à cacher son trouble face à l'homme qui a osé l'aborder. Dans le jardin, Marguerite au bras de Faust.
Je sens bien que monsieur me ménage. Il s'abaisse au point de me rendre toute honteuse. Je sais fort bien qu'un homme aussi expérimenté ne peut s'entretenir avec ma pauvre conversation.
Un regard de toi, une seule parole m'en dit plus que toute sagesse de ce monde. Il lui baise la main.
Ne prenez pas la peine. Comment pouvez-vous me baiser la main? Elle est si sale, si rugueuse.
Tu me reconnus, n'est-ce pas, mon petit ange, dès que j'arrivais dans le jardin?
Ne vous en êtes-vous pas aperçu? Je baissais soudain les yeux.
Et tu me pardonnes la liberté que je pris? Ce que j'eus la témérité d'entreprendre lorsque tu sortis tantôt de l'église?
J'étais confuse. Jamais cela ne m'était arrivé. Jamais personne n'a pu dire du mal de moi. Ah, pensais-je, aurait-il trouvé dans mon comportement quelque chose de hardi, d'inconvenant, qui l'a incité à m'aborder, à traiter ainsi une jeune fille? Je l'avouerai pourtant, je ne sais quoi commençait déjà à m'émouvoir à votre avantage, mais certainement, j'étais très fâchée avec moi de n'avoir pu être davantage fâchée envers vous.
Cher ami.
Laissez-moi.
Elle cueille une marguerite et en arrache les pétales les uns après les autres. Que veux-tu en faire? Ce n'est pas un bouquet?
Non, ce n'est qu'un jeu.
Comment?
Allons, vous vous moquerez de moi.
Elle effeuille et murmure tout bas. Que murmures-tu?
Il m'aime. Il ne m'aime pas.
Douce figure du ciel.
Il m'aime, non. Il m'aime, non. Il m'aime.
Oui, mon enfant. Que la prédiction de cette fleur soit pour toi l'oracle des dieux. Il t'aime. Comprends-tu ce que cela signifie? Il t'aime.
Je frissonne.
Oh, ne frémis pas. Que ce regard, que ce serrement de main te dise ce qui ne peut s'exprimer. S'abandonner l'un à l'autre pour goûter un ravissement qui doit être éternel. Éternel. Sa fin serait le désespoir. Non, point de fin, point de fin. Marguerite lui serre la main, se dégage et s'enfuit. Elle entre dans un pavillon du jardin, le cœur battant, se cache derrière la porte.
Il vient.
Ah, friponne, tu veux m'agacer? Je te tiens. Il l'embrasse. Marguerite lui rendant le baiser.
Oh, le meilleur des hommes. Je t'aime de tout mon cœur.
Avançons dans l'intrigue et découvrons un événement qui va bouleverser le destin des protagonistes. Désormais, Faust et Marguerite partagent un véritable amour, mais c'est sans compter les mœurs de l'époque qui punissent le comportement frivole des jeunes femmes. Valentin, le frère de Marguerite, un soldat soucieux de l'honneur de sa famille, ne peut admettre la désinvolture de sa sœur. Sa rencontre hasardeuse avec Méphistophélès aura raison de lui. Nuit, une rue devant la porte de Marguerite. Valentin. Lorsque j'assistais à l'un de ces banquets où plus d'un aime à se vanter et que mes compagnons célébraient devant moi la fleur des jeunes filles en louanges sonores, en arrosant l'éloge d'un verre plein, moi, les coudes sur la table, j'étais assis tranquillement, écoutant toutes leurs fanfaronnades. Chacun son goût, disais-je. Mais en est-il une dans le pays qui égale ma chère petite Marguerite, qui arrive à la cheville de ma sœur? Top, top, cling, clang, résonnait à la ronde. Les uns criaient, il a raison, elle est l'ornement de tout son sexe. Alors il restait muet. Mais maintenant, c'est à s'arracher les cheveux, à se jeter contre les murs. Le dernier des coquins peut m'accabler de plaisanteries, de nazardes, et dussé-je les massacrer tous, je ne pourrais point les appeler menteurs. Qui vient là? Qui se glisse le long de la muraille? Si c'est ce maudit séducteur, je l'empoigne illico par la peau du cou. Il ne partira pas vivant d'ici. Qui leur tue par là? Maudit preneur de rats, viens donc te battre. Par ici, prends ça. Mais on dirait que c'est le diable qui combat en personne. Qu'est-ce cela? Déjà ma main se paralyse. Oh malheur, il tombe.
Voilà mon lourdeau apprivoisé. Mais maintenant, déguerpissons. Il faut nous éclipser lestement, car j'entends déjà qu'on crie au meurtre. Je m'arrange aisément avec la police, mais il m'est plus difficile de composer dans les affaires de meurtre.
Après avoir commis son meurtre, Méphistophélès cache son méfait à son maître et l'entraîne dans une véritable danse macabre. Voici la célèbre scène intitulée « Nuit de Walpurgis » où Faust participe à une cérémonie secrète en hommage à Satan. C'est le sabbat des sorcières. Il danse et s'amuse parmi des créatures maléfiques avant de rencontrer une femme envoûtante et dangereuse, Méduse, qu'il confond avec Marguerite. Troublé par cette apparition, Faust croit voir une blessure au cou de la jeune femme. Sans le savoir, il prédit le destin sombre de sa bien-aimée, bientôt condamnée à la prison et à la potence. Faust et Méphistophélès sont en chemin. Faust, comme brille étrangement dans les vallées l'éclat d'une triste aurore. Il pénètre jusqu'au plus profond des gorges de l'abîme. Là monte une vapeur, là passent des nappes de gaz, là brille une flamme dans l'ombre du brouillard, tantôt serpentant comme un sentier étroit, tantôt bouillonnant comme une source. Près de nous jaillissent des étincelles qui répandent une poussière d'or. Mais regarde, dans toute sa hauteur, le mur de rocher s'enflamme.
Comme il convient pour cette fête, le seigneur Mammon n'illumine-t-il pas son palais? C'est un bonheur pour toi d'avoir vu cela. Je devine déjà l'arrivée des convives. Écoute comme les bois crient. Les chouettes fuient, épouvantées. Entends-tu éclater les colonnes de ces palais de verdure éternelle? Entends-tu les branches trembler et se briser? Quel puissant mouvement dans les troncs, parmi les racines, quel murmure et quel ébranlement! Entends-tu ces voix dans les hauteurs, dans le lointain ou près de nous? Oui, la montagne retentit de toute sa longueur d'un furieux chant magique.
Faust et Méphistophélès arrivent à la fête organisée en hommage à Satan. Que je n'aille pas moi-même perdre la tête, j'appellerai cela simplement une foire.
Tout le tourbillon s'élance vers le haut, tu crois pousser et tu es poussé.
Qui est donc cette femme?
Considère-la bien, c'est Lilith, la première femme d'Adam. Prends garde à ses beaux cheveux, parure qui chez elle brille d'un éclat unique. Quand elle s'en sert pour séduire un jeune homme, elle ne le laisse pas s'échapper de sitôt. Mais aujourd'hui, on ne connaît pas de repos. On passe à la danse. Viens maintenant, du cœur à l'ouvrage.
Faust dansant avec Lilith. Je fis naguère un beau rêve. Je vis alors un pommier avec deux pommes qui brillaient. Elles m'attirèrent et je grimpais. Méphistophélès dansant avec une vieille femme.
Je fis naguère un vilain rêve. Je vis alors un arbre fendu. Il avait un énorme trou. Si grand qu'il fût, j'y trouvais goût.
Faust s'arrêtant de danser. Méphisto, vois-tu là-bas une belle enfant qui demeure seule dans l'éloignement? Elle se retire languissamment de ce lieu et semble marcher les fers aux pieds. Je dois avouer qu'il me semble qu'elle ressemble à la bonne Marguerite.
Laisse cela. Personne ne s'en trouve bien. C'est une figure magique, sans vie, une idole. Il n'est pas bon de la rencontrer. Son regard fixe fige le sang de l'homme et le change presque en pierre. Tu as déjà entendu parler de la Méduse.
En vérité, ce sont vraiment les yeux d'une morte qu'une main chérie n'a point fermée. C'est bien là le sein que Marguerite m'abandonna. C'est bien le corps si doux que je possédais.
C'est là un tour de magie, pauvre fou facilement séduit, car chacun croit y trouver celle qu'il aime.
Quelle délice et quelle souffrance. Je ne puis m'arracher à cette vue. Qu'il est étrange cet unique ruban rouge, pas plus large que le dos d'un couteau qui semble parer ce beau cou. Quatre ans ont passé. Retrouvons Marguerite au comble du désespoir. Après avoir séduit Marguerite, Faust la délaisse pour mener une vie de débauche aux côtés de Méphistophélès, qui lui a donné l'apparence d'un fougueux jeune homme. Pendant ce temps, Marguerite est devenue folle et a commis l'irréparable. Elle a tué son propre enfant qui lui rappelait trop son amour perdu. La voici à son rouet. Elle chante son malheur.
La paix, je l'ai perdue et mon cœur est bien lourd. Jamais la retrouverai, jamais plus, jamais plus. Là où il est absent est pour moi une tombe et le monde n'a plus qu'un goût plein d'amertume. Ma pauvre tête folle a perdu la raison. Mon pauvre esprit en moi s'est brisé en morceaux. La paix, je l'ai perdue et mon cœur est bien lourd. Jamais la retrouverai, jamais plus, jamais plus. Je vais à la fenêtre uniquement le voir, je sors de la maison uniquement pour lui. Sa démarche altière, sa figure si noble, sa façon de sourire, le charme de ses yeux et le flot enchanteur de ses belles paroles et la pression de ses mains et aussi ses baisers. La paix, je l'ai perdue et mon cœur est bien lourd. Jamais la retrouverai, jamais plus, jamais plus. Mon sein, ô Dieu, vers lui se porte vivement. Que ne puis-je la voir, dans mes bras le tenir, lui donner des baisers comme je le désire, de ces baisers, ô Dieu, me faudrait-il mourir? La paix, je l'ai perdue et mon cœur est bien lourd. Jamais la retrouverai, jamais plus, jamais plus.
Quelque temps plus tard, retrouvons Faust agité par une terrible nouvelle. Entraîné dans une vie de débauche, Faust finit par apprendre que Marguerite a été accusée de meurtre, puis jetée en prison après la mort de son frère Valentin. Comme le présageait la vision du cou ensanglanté de Méduse lors du bal des sorcières, Marguerite est condamnée à la peine capitale par pendaison. Pris à partie par Faust, Méphistophélès promet alors à son maître de tout faire pour secourir sa bien-aimée. Quoi ? Dans le malheur, le désespoir, longtemps errant misérablement sur la terre et maintenant prisonnière, jetée comme une criminelle dans un cachot, la douce et malheureuse créature se voit réservée à d'insupportables tortures. Imposteur, indigne esprit, et tu me l'as caché. Reste maintenant, reste. Roule avec furie tes yeux de démon dans ta tête infâme et brave-moi par ton insoutenable présence. Prisonnière, accablée d'un malheur irréparable, abandonnée au mauvais esprit et à l'inflexible justice des hommes. Et tu m'entraînes pendant ce temps à d'insipides plaisirs, tu me caches sa misère toujours croissante, et tu l'abandonnes sans secours à sa perte, ruinée et mort de tout un monde sur toi, monstre. Conduis-moi, te dis-je, et délivre-la.
Je t'y conduis. Quant à ce que je puis faire, écoute. N'ai-je pas tout pouvoir sur la terre et dans le ciel ? Je brouillerai l'esprit du geôlier, empare-toi des clés et conduis-la hors de la prison de main d'homme. Je veille. Les chevaux enchantés seront prêts, je vous enlève. C'est tout ce que je puis.
Allons, partons. Mais aux portes de la prison, rien ne se déroule selon les plans prévus. En proie au désespoir et au délire, Marguerite ne reconnaît pas son amant venu la secourir. Lorsqu'elle aperçoit le diable, elle implore Dieu et n'aspire plus qu'à une seule chose, se laisser mourir. C'est alors que Faust, obéissant au pacte qui le lie à Méphistophélès, accepte de suivre le diable et de se damner, afin de rendre la vie sauve à sa bien-aimée. Devant un trousseau de clés et une lampe, devant une petite porte de fer, Faust, je sens un frisson depuis longtemps oublié. Toute la misère de l'humanité s'empare de moi ici. Derrière ces murailles humides, voilà le lieu qu'elle habite, et son crime fut une douce illusion.
Faust, tu trembles de t'approcher ? Tu crains de la revoir ? Entre ! Tes hésitations hâtent l'instant de son supplice.
Il entre, Marguerite se cachant sur son grabat.
Hélas, les voilà qui viennent. Que la mort est amère, bourreau, qui t'a donné ce pouvoir sur moi ? Tu viens me chercher déjà à minuit. Aie compassion et laisse-moi vivre. Demain de grand matin, n'est-ce pas assez tôt ? Je suis pourtant si jeune et je dois déjà mourir. Je fus belle aussi. C'est ce qui causa ma perte. Le bien-aimé était à mes côtés. Maintenant, il est bien loin.
Vais-je supporter cette détresse ? Se jetant à ses pieds. Paix, paix, je viens te délivrer. Un être qui t'aime est à tes pieds. Il cherche à te délivrer de ces chaînes douloureuses. Marguerite, Marguerite.
C'était la voix de mon ami. Où est-il ? Je l'ai entendu m'appeler. Je suis libre. Personne ne peut me retenir. Et je veux voler à son cou. Je veux me serrer contre lui.
C'est moi.
C'est toi ? Oh, redis-le encore. C'est lui ? Lui ? Où sont mes douleurs ? Où sont les angoisses de la prison? Où est l'angoisse des chaînes? C'est bien toi. Tu viens me chercher, me voilà sauvée.
Viens, viens avec moi. Hâte-toi. Si tu ne te hâtes pas, nous allons le payer cher.
Quoi? Tu ne sais plus m'embrasser? Mon ami, depuis si peu de temps que tu m'as quittée, ton amour l'as-tu laissé? Qui me l'a ravi?
Viens, suis-moi, ma bien-aimée, du courage. Je brûle pour toi de mille feux, mais suis-moi, c'est ma seule prière.
Est-ce bien toi? Est-ce toi à coup sûr?
C'est moi, viens donc.
Dehors? Si la tombe est dehors, si la mort guette, alors restons ici. Tu t'en vas maintenant? Oh, si je pouvais te suivre.
Tu le peux, veuille-le seulement, la porte est ouverte.
Je ne puis sortir, il ne me reste plus rien à espérer. À quoi bon fuir? Il m'épie et me guette.
Reprends donc tes esprits, un pas encore et tu es libre. Puisque ni larmes ni paroles ne font rien sur toi, j'oserais t'entraîner loin d'ici.
Laisse-moi, ne me saisis pas si violemment. J'ai déjà tant fait pour l'amour de toi.
Oh, que ne suis-je jamais née. Méphistophélès se montra au dehors.
Sortez, ou vous êtes perdus. Que d'hésitation et de vaines paroles. Mes chevaux frissonnent, le jour commence à poindre.
Qui s'élève ainsi de la terre? Lui, le diable? Toi qui m'aimes, chasse-le vite. Que vient-il faire ici? C'est moi qu'il veut.
Non, ma bien-aimée, il n'est pas là pour toi. Il faut que tu vives.
Justice de Dieu, je me suis livrée à toi. J'en appelle à toi, Seigneur.
Viens, ou je t'abandonne avec elle.
Je t'appartiens, Père. Sauve-moi. Ange, entourez-moi, protégez-moi. Et toi, Faust, que j'ai tant aimé, tu me fais horreur.
Elle se meurt. C'est le jugement dernier. Et toi, cher maître, à présent, tu es à moi.
Faust jeta un dernier regard sur Marguerite. Elle est sauvée.
Guillaume Gallienne sur France Inter.
Un peu de lecture, ça peut pas faire de mal.
Let now all your sorrows inhale. Don't weep no longer. You're shaking inside your shell. Leave now. All your troubles alone. Look at the bright side. No morning from dusk till dawn. But don't knock your head on that wall. You can't cut the pain when you fall. You're feeling down when you look up. You're feeling down and you don't want it, nobody. You can't cut the pain when you fall. You're feeling down when you look up. You're feeling down and you don't want to take nobody.
Ainsi s'achève la première partie, la plus connue des aventures de Faust. Dans la seconde partie, on apprend que Marguerite, la vie sauve, se retire dans un couvent et disparaît de la vie de son bien-aimé. Avant de suivre le diable dans de nouvelles aventures qui feront l'objet du Faust 2, voici les adieux de notre héros au monde des hommes. Après avoir été contraint d'abandonner Marguerite, Faust se retrouve seul face à lui-même et face à la grandeur de la nature. Il médite sur la misère de l'homme. Puis, à l'aube, admirant le spectacle du soleil levant, il ne sait plus s'il est promis à l'amour divin ou à l'enfer. Faust, couché dans l'herbe, fatigué, inquiet, cherchant le sommeil. Crépuscule. Des esprits, figures légères et charmantes, planent autour de lui. Ô terre, déjà tu animes et excites en moi la ferme résolution de tendre inlassablement vers la suprême existence. Le monde s'ouvre. La forêt retentit d'une vie aux mille voix. D'une vallée à l'autre, la brume se répand, mais la clarté du ciel plonge dans les profondeurs. Regardez là-haut. Les crêtes géantes des montagnes annoncent déjà l'heure la plus solennelle. Elles jouissent à l'avance de la lumière éternelle. Voici le soleil. Hélas, aveuglé déjà, je me détourne, les yeux douloureusement blessés. Ainsi en est-il lorsqu'un ardent espoir a lutté pour s'approcher tout près de l'objet suprême de ses vœux et voit s'ouvrir toutes grandes les portes de l'accomplissement. Voilà que de ses profondeurs éternelles jaillissent tant de flammes que nous nous arrêtons épouvantés. Nous voulions allumer le flambeau de la vie, mais une mer de feu nous entoure, et de quel feu? Est-ce amour? Est-ce haine qui nous entoure et brûle? Terrible succession de joies et de douleurs. Que le soleil luise donc derrière moi. La cascade qui bouillonne entre les rochers, je la contemple avec un émerveillement croissant. De chute en chute, elle se brise en sang, en mille jets, et se déverse, jetant à grand bruit, haut dans les airs, écume sur écume. Mais avec quelle splendeur surgit cette tempête ? La voûte multicolore de l'arc-en-ciel à la changeante durée, tantôt nettement dessinée, tantôt évanouie dans l'air, répandant autour d'elle un frisson de fraîcheur parfumée. Ici se réfléchit l'image des efforts humains. Médite cette vision et tu comprendras mieux. C'est à son reflet coloré que nous saisissons la vie. Grâce au pouvoir maléfique de Méphistophélès, Faust a tout oublié de son amour pour Marguerite, et a mené une existence pleine de jouissances. Mais à l'âge de 100 ans, le savant meurt, tourmenté par le mal qu'il a commis. Aux portes de l'au-delà, Méphistophélès se bat contre les anges pour emporter Faust en enfer. Mais celui-ci est sauvé in extremis. Il est emmené au paradis, où il trouvera la vie éternelle. Dans cet ultime monologue, le diable comprend qu'il a perdu son pari avec Dieu. Il se rend compte que sa magie noire ne peut rien contre l'amour. Cette douce folie qui a eu raison du plus sage des hommes.
La tête me brûle, mon cœur et mon foie brûlent. C'est un élément surdiabolique, bien plus acéré que le feu de l'enfer. Voilà pourquoi vous vous lamentez si affreusement, malheureux amoureux, qui dédaignez et tordez le cou pour épier votre chérie. Moi aussi? Qu'est-ce qui me tire la tête de leur côté? Ne suis-je pas leur ennemi juré? De les voir fut toujours pour moi une atteinte ennemie. Quelque chose d'étranger m'a-t-il pénétré de part en part? Que m'arrive-t-il? La même chose qu'à Job, lèpre et rien que lèpre. Mais comment? Où s'en sont-ils allés? Peuple immature, tu m'as surpris. Les anges se sont envolés vers le ciel avec leur proie. Voilà pourquoi ils sont venus rôder autour de ce tombeau. On m'a dérobé un grand, un unique trésor, Faust. Cette âme haute qui s'était mise en gage dans mes mains, ces filous me l'ont escamoté. Auprès de qui, à présent, dois-je me plaindre? Qui me restituera le droit qui m'était acquis?
Tu es trompé dans tes vieux jours. Tu l'as mérité. Cela va rudement mal pour toi. Je m'y suis honteusement mal pris. Un grand déploiement de peine est ignoblement gâché. D'une vulgaire convoitise, d'une absurde amourette, le diable retors a été pris. Et si de ces choses, de cette puérile sottise, le sage expérimenté s'est mêlé, ce n'est pas une mince folie, en vérité, qui à la fin s'est emparée de lui.
Ça peut pas faire de mal.
Je suis la diable.
Si vous saviez comme ça m'est égal.
Bon. Vous ne comprenez pas ce que je vous dis, moi. Je suis le diable. Oui, le diable. Si vrai que je suis ici, que je suis ailleurs en même temps.
Cette émission, réalisée par Xavier Pestugia avec Jean-Michel Coqui à la technique, a été préparée par Estelle Gap, Laurel Maki, Irène Menahem et aussi Élodie Royer. Merci à toutes et à tous. Merci Adeline Dermy, merci Stéphane Varupen. Et j'espère à bientôt pour d'autres émissions avec vous. Bonne soirée, à la semaine prochaine.